Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes de ce vendredi matin sont Dimitri Pavlenko, qui aura le micro dans un instant. Mais d'abord, Emmanuel Faux, le spécialiste des questions internationales. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour.
Nous allons parler du premier pays au monde qui se reconfine entièrement. C'est à partir d'aujourd'hui, c'est Israël, où pendant 3 semaines au moins, chaque habitant ne pourra plus se déplacer à plus de 500 mètres de son domicile. C'est un reconfinement qui intervient en plus à quelques heures du nouvel an juif. Mais le plus intéressant ce matin, Emmanuel, ce sont en fait, selon vous, les coulisses politiques de cette décision.
Ben oui Bernard, parce que si Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'est finalement résolu à imposer ce reconfinement absolu à toute la population, c'est parce qu'il s'est retrouvé au pied du mur, devant la flambée des cas de Covid-19 ces dernières semaines. Plus de 3000 cas par jour pour moins de 9 millions d'habitants. C'est l'un des taux de contamination par habitant les plus élevés au monde. Et si Monsieur Netanyahou s'est retrouvé dans cette situation, c'est parce qu'il a été incapable politiquement de gérer cette crise sanitaire.
Oui.
Souvenons-nous qu'à l'origine, le gouvernement d'Union nationale qui a été constitué péniblement au printemps avait comme feuille de route de faire bloc contre le virus et de mettre toute l'énergie de cette coalition allant du centre à l'extrême droite au service de la lutte contre la pandémie. Mais dès que le Premier ministre israélien a formé le nouveau gouvernement en mai, avec la certitude de pouvoir s'appuyer sur une majorité de députés à la Knesset, eh bien la sortie du déconfinement, a été décidée avec l'urgence donnée au redémarrage économique. Même le président israélien s'en est inquiété, en parlant d'un manque de cohérence des décisions prises, et c'est ensuite la directrice de la santé publique qui a remis son tablier. Alors face à la poussée exponentielle de la maladie dans la communauté ultra-orthodoxe, Benjamin Netanyahou a tenté dans un premier temps de reconfiner localement des communes ou des quartiers à majorité religieuse, mais il a dû faire machine arrière devant la levée de boucliers des rabbins et de ceux qui contestent habituellement l'autorité du gouvernement. Un couvre-feu a alors été décidé dans une quarantaine de communes ultra-orthodoxes qui ont très mal pris la chose. Et bien du coup, le gouvernement n'a eu d'autre choix pour se faire entendre que de décréter ce reconfinement général, mesure radicale après plusieurs zigzags.
Alors on sait aussi, Emmanuel, que le Premier ministre israélien a consacré beaucoup de temps ces dernières semaines au rapprochement de son pays, notamment avec les Émirats Arabes Unis et avec Bahreïn.
Ouais.
Et peut-être que tout ce temps qu'il a consacré à ça, il ne l'a pas consacré à la lutte contre le Covid-19, ça peut expliquer aussi, non ?
Vous ne croyez pas si bien dire, Bernard, puisque lundi dernier, juste après avoir annoncé aux Israéliens qu'ils allaient être reconfinés, qu'est-ce qu'a fait Benjamin Netanyahou ? Il a sauté dans un avion, oui, pour Washington, avec femme et enfant, pour aller célébrer à la Maison Blanche, avec son grand ami Donald Trump, l'accord Israël, Bahreïn, Émirats, dans une scénographie qui rappelait à ceux qui ont un peu de mémoire les accords de Camp David avec l'Égypte, ou même la poignée de main historique, souvenez-vous, Rabin Arafat, oui, en 93, à l'occasion des accords d'Oslo. Et dans l'ivresse de son succès diplomatique, même si cet accord a évidemment un revers de la médaille, et j'y reviendrai un jour prochain, le Premier ministre israélien n'a eu aucun scrupule à mettre son pays sous cloche avant d'aller plastronner sur la scène internationale. En plus, il a perdu l'un de ses alliés religieux, puisque le ministre ultra-orthodoxe du logement n'a pas supporté que le début du reconfinement aujourd'hui coïncide avec le nouvel an juif, et il a démissionné. Tout cela pour dire qu'après avoir beaucoup pris l'avion ces jours derniers, M. Netanyahou va devoir atterrir, et il va retrouver la réalité d'un pays à l'arrêt, mais surtout très mécontent, dans un paysage politique plus éclaté que jamais, une crise sociale qui est appelée à s'aggraver avec près d'un actif sur 5 au chômage, et un voisin palestinien évidemment frustré, vexé, furieux de l'accord de normalisation. Bref, autant de bombes à retardement, Bernard, qui ne manqueront pas d'éclater après les fêtes juives cet automne, une fois que le pays se redéconfinera.
Normalement donc dans 3 semaines, hein, puisque le confinement c'est pour 3 semaines.
Prolongeable.
Ça peut être prolongeable, bien sûr. Merci beaucoup pour ce coup d'œil international d'Emmanuel Faux. Et avec nous aussi Dimitri Pavlenko. Ce matin, Dimitri, depuis plusieurs jours, on a parlé sur cette antenne, bien sûr, de l'affaire Bridgestone, cette usine de pneumatiques qui appartient à un fabricant japonais, donc Bridgestone, qui est
mondial,
à Béthune,
ouais, ouais,
dans le nord de la France, qui va complètement fermer, en tout cas c'est la volonté de la direction. Il y a 850 emplois à la clé qui risquent de partir au bouillon. Tout le monde politique, droite, gauche, centre, extrême droite, extrême gauche, est fou furieux. À juste titre ou pas? Ou c'est une décision économique contre laquelle il n'y a rien à faire?
En fait, vous posez des questions importantes, Bernard. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Bridgestone décide de fermer ? Et la réponse qu'on peut apporter ce matin, c'est que d'abord, ça n'a strictement rien à voir avec le Covid-19.
D'accord.
Absolument rien à voir. Le problème, c'est l'état du marché européen du pneu, à savoir que depuis 20 ans, vous avez des marques chinoises qui sont extrêmement entreprenantes et offensives, qui produisent des produits qui sont globalement de plutôt bonne qualité, hein, il faut le dire, hein, et puis une qualité qui a progressé à des prix qui défient toute concurrence. Résultat, les Chinois, le pneu chinois est passé de 6 à 25% de part de marché. C'est mécanique. Hein. En Europe, vous produisez avec des coûts plus élevés. Sur ce segment du pneu peu cher, du pneu de moins de 18 pouces, Bridgestone aujourd'hui n'est plus compétitif. Et que s'est-il passé ? Bridgestone, le japonais, l'a compris depuis plusieurs années. Ils ont arrêté d'investir dans le site de Bridgestone. Et d'où cette décision de fermeture, qui est sensiblement la même qui a été prise par le passé par d'autres pneumaticiens. Vous pouvez penser à Goodyear, à Amiens, vous avez Continental également, mais aussi Michelin, qui a fermé deux sites en Europe, Bamberg en Allemagne, et puis La Roche-sur-Yon, sur un autre segment de marché, à savoir le pneu de camion. Alors l'autre question, c'est maintenant, que peut faire l'État ? Que peut faire l'État ? Parce qu'évidemment...
À part les belles déclarations, qu'ils ont d'ailleurs très violentes, hein, Monsieur le maire a été très clair, c'est inadmissible, c'est scandaleux.
C'est révoltant.
On avait dit la même chose avec Ford Blanquefort aussi, les boîtes de vitesse qui a finalement fermé.
Alors, le fait est que l'État, en réalité, il ne peut rien faire. Il ne peut pas s'opposer à la fermeture de Bridgestone. Rien n'empêche un groupe privé de décider cela. D'autant que l'État, contrairement à d'autres groupes, il a, par exemple, on pense à Renault, l'État n'a aucune prise aujourd'hui sur Bridgestone parce que Bridgestone a refusé catégoriquement toute aide publique depuis des années.
Donc ce n'est pas du donnant-donnant.
Ben non.
Ils ne nous doivent rien.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'entendais Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, dire « Oui, mais on leur a donné 500 000 euros. » Ça remonte à 2008.
Ça remonte 500 000 euros,
2008,
qu'est-ce que c'est ?
500 000 euros, c'est peanuts. Quand le groupe Bridgestone a investi sur un site en Pologne près de 200 millions d'euros, avec d'ailleurs une partie d'argent européen. On y reviendra peut-être.
Qu'est-ce que peut faire le gouvernement français ? Il peut dire, écoutez, on ne peut pas vous empêcher, mais vous allez le payer cher.
Alors, ce qu'il peut faire, l'État, c'est d'abord rappeler à Bridgestone la loi. La loi, c'est la loi Florange, qui date de 2014. Rappelez-vous, Florange, hein, cette aciérie.
Les aciéries.
Que dit la loi de Florange ? Elle dit d'abord... L'industriel doit prévenir à l'avance. Ensuite, il doit proposer des solutions de reclassement à ses salariés. En ce qui concerne Bridgestone, ça va être compliqué. Il n'y a pas d'autre site Bridgestone en France.
Non.
Donc, pour le coup, ça va être compliqué. Donc, il faut qu'il cherche un repreneur. Ça, c'est une obligation légale. Ou présenter un plan de revitalisation. Donc, si vous voulez, l'avenir pour Béthune, il est quand même plutôt sombre. Donc, il y a assez peu de solutions industrielles qui se présentent. Ensuite, il y a le risque politique. Effectivement, vous avez évoqué les oppositions. Marine Le Pen s'est rendue en urgence sur place. Elle a rencontré avec les salariés dans une réplique de ce qu'elle avait fait à Whirlpool en 2017 pendant la campagne présidentielle. Vous vous en souvenez. Hein. La France Insoumise dit il faut nationaliser le site. Très bien. Mais pour quel projet industriel ? On a vu que c'était extrêmement compliqué. Le vrai risque, au fait, pour le gouvernement aujourd'hui, c'est et si demain, il y a 50 Bridgestone ? Ça n'est pas exclu, parce que la décision de l'industriel tombe extrêmement mal pour le gouvernement au moment où lui, il est en train d'avancer sur sa stratégie de réindustrialisation et de relocalisation. L'affaire Bridgestone tombe au très mauvais moment pour le gouvernement.
Bon, encore une tuile de plus. Merci beaucoup, Dimitri Pavlenko, cette analyse.
Hein.
D'abord pour les 850 malheureux salariés de Béthune qui auront bien du mal à retrouver un emploi dans ce bassin déjà largement sinistré. Merci beaucoup Dimitri Pavlenko, il est 7h48, le journal imprévisible, c'est dans un court instant. Le réalisateur, c'est Marc Bourreau, et l'invité, c'est Jimi Hendrix, imaginez-vous.